Tu cherches tes problèmes.
On n'a pas besoin de chercher les problèmes.
Qu'est-ce que tu dis?
On n'a pas besoin de chercher les problèmes.
C'est eux qui vous trouvent, hein?
Toute notre vie est un problème.
Et à qui la faute, tu crois?
Bonsoir Xavier Mathieu, vous êtes le délégué CGT de Continental à Clairois. On comprend bien sûr votre désarroi, mais est-ce que ça ne va pas trop loin? Est-ce que vous regrettez ces violences? Vous plaisantez, j'espère.
Il faut travailler à réduire globalement la violence qui reste invisible, en tout cas à partir des lieux centraux ou dominants, celle qui s'exerce au jour le jour, pêle-mêle, dans les familles, les usines, les ateliers, les commissariats, les prisons, ou même les hôpitaux et les écoles, et qui est le produit de la violence inerte des structures économiques et sociales et des mécanismes impitoyables qui contribuent à les reproduire.
Bonsoir à tous, vous êtes toujours branchés sur le 102.2 de Radio Canu, Radio Rebelle. Et c'est l'émission Angle Mort qui commence. Il est 9h passé de 5-6 minutes. Angle Mort, émission de critique sociale, émission d'expérimentation sociale. Et aujourd'hui, je vais laisser tout de suite la parole à Fabien qui va nous préparer, de quoi il sera question.
Bonsoir. Ce soir, on va voyager encore. On part du Brésil et on va aller du côté de la Tunisie. Et on a ce soir une invitée, Abir, qui va venir nous parler de la Tunisie, qui a travaillé en fait. Qui a fait un travail de sociologie en fait sur les écrivains tunisiens, et donc on s'est dit que c'était une bonne occasion en fait de revenir en fait sur des choses qu'on connaît pas forcément bien en France, et notamment quel est le contexte pour écrire, pour être publié en fait en Tunisie. Alors on va faire ça en plusieurs temps. On va parler de la difficulté en fait déjà de publier en Tunisie, et puis on essaiera de voir s'il y a des formes de résistance et comment elles s'expriment. Et on essaiera aussi plus tard de parler des écrivaines aussi un petit peu, parce que c'est un sujet qui t'a intéressé. Et on essaiera peut-être aussi de faire le lien avec la Révolution, même si visiblement ce ne sera pas forcément très, très évident. Donc je vous propose de parler de tout ça ce soir. Et on a avant ça en fait une nouvelle personne qui nous rejoint dans Angle Mort, c'est Man. Bonsoir Man.
Salut à tous.
Et donc, Man va nous rejoindre. Il viendra régulièrement faire des chroniques. Et je te laisse présenter ce que tu proposes.
Oui. Rapidement, pour l'instant, la régularité n'est pas encore fixée, on ne sait pas trop, mais l'idée c'est de proposer des chroniques, en fait de présenter des ouvrages qui sont basés sur des enquêtes sociologiques, de sciences sociales, histoire sociale et autres, avec un impact politique. C'est des ouvrages qu'on n'a pas souvent l'occasion de lire, et puis même globalement on manque de temps pour lire, donc je me propose d'en parler, et notamment de parler des par exemple, des petits ouvrages qui sont publiés dans la collection Raison d'agir, à la maison d'édition Raison d'agir. Voilà.
Très bien. Et tu as déjà des petites idées d'ouvrages que tu voudrais nous présenter ?
Alors, pour l'instant, j'ai pas d'idées préconçues, mais l'idée, c'est d'avoir par contre des thèmes qui peuvent toucher des publics différents. De parler aussi bien des sans-papiers que des chômeurs, que de l'enseignement supérieur, que de la télévision, que etc. Voilà, donc ça n'intéressera peut-être pas tout le monde à chaque fois, mais en tout cas essayer de toucher voilà, un peu des publics différents.
Les auditrices, auditeurs ont l'habitude hein, des choses passionnantes. Ils ont déjà expérimenté les chroniques zombies, ça va quoi s'attendre. Très bien, bon bah on a hâte alors. On commence par un premier titre, Eric ?
Oui, un premier titre qui sera Atari Teenage Riot avec le titre qui s'appelle Revolution Action qui devrait lancer joliment cette émission.
يا ظالم
Donc de retour sur le 102.2 de Radio Canu, c'était une version revisitée de Revolution Action. C'est tout simplement une erreur de CD, mais en fait c'était une chanson qu'on voulait quand même passer. Je vais laisser du coup à bien notre invité la présenter.
Bonsoir à toutes et à tous. Oui, alors Amel Mahkouti, c'est donc une chanteuse tunisienne qui s'est fait connaître déjà un petit peu avant la Révolution. Et surtout après, qui a écrit pas mal de chansons engagées contre la dictature, qui devient maintenant relativement connue. Elle a sorti un CD il y a à peu près 2 ans qui s'appelle Kelimti Hora, c'est-à-dire Ma parole est libre. Et là, dans la chanson qu'on vient de passer, elle s'adresse à un tyran, Zalem, qu'on pourrait aussi traduire par l'injuste, en fait, parce que Zalem, ça vient d'un verbe qui, en arabe, signifie. Être injuste, l'injustice, et elle lui dit « Si tu me tues, j'écrirai mon chant, si tu me blesses, je conterai mon histoire ». Et donc du coup, elle explicite un peu toutes les formes de résistance à travers sa chanson, qu'elle revendique comme une chanson engagée.
D'accord. Voilà. Bien. Bon, on réécoutera un morceau de l'album plus tard dans l'émission. Alors, on va commencer tout de suite cette interview, cette discussion autour en fait de ce travail que tu as fait autour des écrivains tunisiens. Et comme je disais un petit peu dans l'introduction, peut-être c'est bien de commencer en fait par expliquer un petit peu le contexte en fait dans lequel on est, c'est-à-dire. C'est quoi publier en fait publier en Tunisie, et est-ce que c'est facile de publier, est-ce qu'il y a au contraire une répression, une difficulté, comment tu peux nous présenter ça en quelques mots s'il te plaît?
Bien sûr, je vais essayer de synthétiser un petit peu ce que je pourrais dire. Avant cela, je m'aperçois que je n'ai pas dit le nom de la chanteuse en question, qui s'appelle Amel Mahkouti, voilà, et dont je recommande le CD si ça vous intéresse, qui s'appelle Kelimti Hora. Alors bon, pour ce qui est des formes de publication, des difficultés à publier en Tunisie, pour synthétiser un peu rapidement ce sur quoi a porté mon enquête que j'ai menée à partir de 2006. Que j'ai arrêté un peu à la veille de la Révolution. Je l'ai menée auprès d'écrivains et d'écrivaines tunisiens de littérature qui sont aujourd'hui encore vivants. Ce qui m'intéressait à l'époque, c'était deux axes. C'était à la fois les formes de contrôle de la production littéraire par les institutions autoritaires, d'une part, et les rapports de genre à l'intérieur de l'univers littéraire tunisien, sur lesquels on reviendra aussi également au cours de l'émission. Avant tout, je voudrais un petit peu contextualiser rapidement le contexte dans lequel, décrire un petit peu le contexte dans lequel écrivent et publient les écrivains et les écrivaines tunisiens de littérature contemporaine. C'est que, contrairement à des pays comme l'Europe ou les États-Unis ou peut-être même comme la Chine, etc., il s'agit d'une littérature qui est très très peu lue, qui est publiée à très peu d'exemplaires. Un roman, généralement, ça se vend entre 1000 et 3000 exemplaires, et quand il atteint 5000 exemplaires sur plusieurs années, c'est vraiment que c'est un best-seller. Ça s'explique par plusieurs raisons. D'une part, par le fait que les politiques de scolarisation massive sont relativement récentes à l'échelle de l'histoire du pays. C'est-à-dire que c'est seulement en 56, au moment de l'indépendance, hein, donc il a fallu la décolonisation pour que des politiques de scolarisation de masse soient mises en place par l'État issu de l'indépendance. Donc le lectorat est relativement réduit, est resté relativement réduit pendant assez longtemps. Et en plus, il s'agit d'une littérature qui est très peu reconnue institutionnellement, c'est-à-dire que les écoliers, les collégiens, les lycéens, les lycéennes en Tunisie étudient non pas des œuvres produites par des Tunisiens et des Tunisiennes, mais surtout des œuvres produites par des écrivains français, quand il s'agit de la littérature de langue française, et des écrivains du Proche-Orient, notamment de l'Égypte, du Liban et de Syrie.
Et il n'y a pas du tout d'auteurs tunisiens qui sont étudiés, zéro auteur.
En fait, il y en a, mais il y en a très très peu. Il y en a uniquement trois qui sont inscrits dans les programmes scolaires du primaire au lycée. Un dramaturge, un romancier et un poète. L'un représentatif un peu de chaque grand genre littéraire, tel qu'on les connaît dans la classification habituelle.
Et donc ça, c'est dû à quoi ? C'est dû au fait qu'il y a peu d'auteurs ou qu'il n'y a pas de volonté de faire reconnaître en fait ces auteurs tunisiens ?
Bon, ça s'explique un petit peu par ce qu'on pourrait appeler des inégalités, des asymétries dans les formes d'accumulation du capital symbolique. Bon, c'est un petit peu... Bon, dit comme ça veut dire quoi ? En des mots un peu plus... en langage ordinaire, ça veut dire que les structures éditoriales en Tunisie datent d'une époque relativement récente, elles datent surtout de l'après-indépendance, et quand l'État tunisien a été mis en place, quand les structures éducatives ont été mises en place, il y avait déjà des écrivains consacrés par ailleurs, que ce soit des écrivains français pour la littérature de langue française, bien sûr, mais aussi des écrivains du Proche-Orient, parce que les structures éditoriales en Égypte et au Liban sont bien antérieures à celles qui ont pu exister en Tunisie. Les écrivains libanais et égyptiens avaient déjà pu accéder à une forme de reconnaissance à l'échelle régionale de l'ère culturelle arabe.
D'accord. Mais j'imagine que, d'ailleurs, c'est ce dont tu vas nous parler, que c'est aussi peut-être à cause d'une certaine autorité de la part, un autoritarisme de la part de l'État qui a un petit peu empêché la publication d'un certain nombre de livres.
Oui, alors bon, c'est effectivement ce qui constitue un peu l'un des axes de ma recherche. Je me suis beaucoup intéressée aux formes de contrôle de la production par l'État autoritaire, mais qui n'est pas d'ailleurs une spécificité de la Tunisie, qu'on a retrouvé aussi en France, jusqu'au Second Empire, jusqu'à la libéralisation relative de la production littéraire par les lois de juillet 1881, qu'on a trouvé bien sûr sous des formes encore plus prononcées en URSS, dans l'ex-URSS et dans les pays de l'ancienne Europe communiste, mais également en Égypte, en Syrie, etc. Ce qui m'a d'emblée paru constituer un problème en quelque sorte assez intéressant à résoudre, c'est que je me suis aperçue assez rapidement qu'il y a eu très très peu d'écrivains de littérature qui ont eu des démêlés avec la justice. C'est-à-dire que quand j'ai fini ma thèse en 2010, quand j'ai fini le terrain de l'enquête proprement dite, à ma connaissance, il n'y avait eu qu'un seul écrivain de littérature, Hassan Ben Othman, qui avait eu un procès en 1986 pour un recueil de nouvelles qu'il envisageait d'auto-éditer, pour lequel il avait été condamné à quelques mois de prison pour la triple accusation d'outrage à l'État, aux mœurs et à la religion, je crois. il me semble. Ce qui m'a intéressé, c'était dans la mesure où l'institution judiciaire a été très peu mise à contribution pour pour contrôler la production littéraire. Concrètement, comment cette production a été contrôlée, comment l'État s'est immiscé dans les activités des écrivains pour contrôler leur production. Alors, sur le temps, sur les 50 ans qui ont suivi l'indépendance, grosso modo, il y a eu deux étapes. La première qui va environ de 1956 jusqu'au début des années 1980, où là, le secteur éditorial privé n'existait pas du tout, hein, c'est-à-dire que ce sont les institutions de l'État qui avaient le monopole de l'édition, avec deux grandes maisons d'édition étatiques. Et les écrivains, donc, pour publier, n'avaient pas d'autre choix que soit de publier dans ces deux maisons d'édition, soit d'auto-éditer leurs ouvrages, soit d'éditer à l'étranger. Et d'une certaine manière, c'est ce monopole de l'État sur l'édition qui a constitué une forme de contrôle relativement nette. À partir du début des années 1980, il y a eu une relative libéralisation du marché éditorial, avec le retrait de relatif de l'État de l'édition, la levée du monopole sur l'édition et la création de maisons d'édition privées qui ont relativement fleuri à partir du début des années 1980. Alors, à partir de ce moment-là, les formes de contrôle de la production littéraire se sont redéployées, c'est-à-dire que jusque-là, il y a eu, et il y a encore toujours, hein, ce qu'on appelle la procédure de dépôt légal, qui n'est pas spécifique du tout à la Tunisie, qui existe également en France. C'est une obligation administrative que, avant de publier un ouvrage, on informe donc les institutions administratives de la prochaine mise à circulation de l'ouvrage sur le marché. Donc c'est ce qu'on appelle le dépôt légal. Sauf que cette procédure qui est normalement purement administrative et informative est devenue une forme de contrôle de la production littéraire parce que les agents qui sont chargés de délivrer un récépissé de dépôt légal ne le délivraient pas à partir du moment où le contenu de l'œuvre pouvait être considéré comme dérangeant. Et il y a eu comme un accord implicite de part et d'autre des agents de l'administration d'une part et des écrivains d'autre part, où si le récépissé de dépôt légal était délivré à l'écrivain ou à l'éditeur, ça voulait dire que l'ouvrage n'était pas censuré. S'il n'était pas délivré, ça veut dire que l'ouvrage était censuré. Sauf que ce qui était assez subtil dans ces formes de contrôle, c'est qu'il n'y avait jamais de trace écrite de la censure, hein, c'est-à-dire qu'on disait simplement oralement ou au téléphone à l'écrivain ou à l'éditeur, donc que le récépissé n'est pas prêt. Donc voilà, et ça s'est un petit peu déroulé de cette manière.
Et c'est auprès de qui ou de quoi en fait qu'il y a un contrôle? C'est-à-dire que c'est quoi qu'il refuse, le gouvernement, l'État, il refuse des personnes, il refuse des contenus. Quelle est finalement la raison, même si elle n'est pas explicitée, qui aboutit à cette censure?
Oui, effectivement, ce qui est un petit peu difficile dans ce type d'enquête, c'est qu'on ne peut jamais avoir la certitude. Donc du coup, pour quelle raison particulière tel ou tel ouvrage n'a pas obtenu le récépissé de dépôt légal, on peut faire des hypothèses. Celle que j'ai pu faire, c'est que, bon, très classiquement, l'ouvrage peut déranger, bien sûr, parce qu'il contient des thématiques, parce qu'il traite de thématiques considérées comme socialement ou politiquement taboues, comme ce qui relève du rapport aux institutions autoritaires, bien sûr, hein, c'est-à-dire qu'un ouvrage qui traite par exemple de résistance à la dictature ou qui revendique sous une forme ou une autre les libertés d'expression individuelle ou publique a de fortes chances d'être interdit. C'est le cas également d'ouvrages qui s'attaquent ou en tout cas qui peuvent être interprétés comme s'attaquant à l'islam, et également d'ouvrages qui traitent du corps et de la sexualité. Voilà, c'est ce que j'ai appelé un petit peu la trilogie de l'interdit, hein, qui a été l'un des motifs assez courants de la censure. Un ouvrage peut être interdit pour d'autres raisons, également, qui parfois n'ont rien à voir avec le contenu. Il peut s'agir simplement de censurer non pas un ouvrage particulier à ce moment-là, mais un auteur en raison de son engagement dans l'opposition politique, indépendamment du contenu de son œuvre. C'est-à-dire que même lorsqu'il s'agissait d'un ouvrage qui ne traitait pas spécifiquement de ces thématiques-là tabous et qui pouvaient par exemple relever de la poésie romantique assez traditionnelle, son auteur, s'il était dans l'opposition soit islamiste, soit de gauche d'ailleurs, hein, avait de fortes chances de, donc, que son ouvrage soit interdit. Et la troisième raison donc, pour laquelle la censure s'exerçait, c'est que c'était non pas en raison spécifiquement de l'engagement politique de l'auteur lui-même, mais de l'engagement politique de son entourage. Mmh. Et ça a été notamment une forme de censure fréquemment exercée à l'encontre des proches des militants islamistes. Il y a par exemple il y a un certain nombre d'auteurs qui étaient des cousins relativement proches ou éloignés de militants islamistes incarcérés ou même libérés à ce moment-là, qui avaient leurs ouvrages censurés. Donc, et c'est une des techniques un petit peu de domination qui a été exercée de façon relativement large à l'encontre des prisonniers politiques et notamment à l'encontre des proches des Nahdawi, parce que tout simplement parce que c'était considéré comme la principale force d'opposition politique dans les années 90, et ça a été un phénomène relativement massif.
Et dans ton enquête, est-ce que tu as pu voir des stratégies de la part des auteurs pour changer la forme ou en tout cas continuer à publier, parce que j'imagine qu'après certains refus ils doivent s'adapter finalement à cette censure, et est-ce que ça se voit justement dans les écrits, dans la forme des livres qui sont finalement publiés ou pas?
Oui, il y a un des phénomènes qui est relativement classique, c'est que dans les années 80, la forme relativement courante du roman, notamment, c'était l'inscription réaliste du roman. C'est-à-dire que le roman traitait de thématiques réalistes. Et à partir de la censure, à partir du moment où l'écrivain avait des difficultés à obtenir le récépissé de dépôt légal ou était menacé plus ou moins implicitement d'un procès, il se redirigeait vers des formes un peu plus allusives, vers des genres également beaucoup moins explicites que le genre réaliste, comme le fantastique par exemple. C'est le cas notamment d'un écrivain qui est un ancien gauchiste qui s'appelle Brahim Darghouti, qui est issu de grands-parents métayers, qui est né autour de l'indépendance en 1956, qui a publié un roman censuré sur les révoltes du pain. Les révoltes du pain, ça a été un grand mouvement social extrêmement réprimé par les autorités policières et militaires en 1984. Son roman est censuré. Il a fait par ailleurs de la prison, non pas en raison du contenu de son œuvre, mais pour son engagement politique gauchiste. Et lorsqu'il sort de prison et que son roman est censuré, il s'intègre relativement dans les structures un petit peu clientélistes de l'État autoritaire. Il se rapproche du RCD, l'ancien parti au pouvoir. Et parallèlement, poursuivre un petit peu son engagement politique dans ses œuvres, il se redirige vers le fantastique et dénonce un petit peu plus ou moins implicitement l'exploitation de la classe ouvrière par les entreprises capitalistes, notamment dans le bassin minier de Gafsa, dans le bassin de phosphate.
J'ai baissé mon micro, donc forcément on m'entend pas. Au-delà de ces pratiques d'adaptation à la contrainte, est-ce que tu as pu observer des formes de, comme il pouvait y avoir en France pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant l'occupation allemande, des formes de contrebande de la part d'écrivains, des formes d'auto-édition, des formes de traduction sous le manteau, etc.
Oui, il y en a eu effectivement. C'est notamment. Ce sont des formes qui ont plus ou moins toujours existé, mais qui deviennent relativement plus courantes à partir de la moitié des années 90, début des années 2000. Et c'est surtout une association qui n'a vu le jour qu'après le 14 janvier 2011, qui s'appelle la Ligue des écrivains libres, dont les membres se sont un petit peu chargés de promouvoir cette littérature clandestine. Qui rassemble six écrivains environ, mais je crois que c'est quelque chose. Ouais, c'est un point sur lequel on va revenir un petit peu plus tard.
On va faire un... on reviendra sur ce point-là. Tu as un petit peu anticipé, Eric. Et après, j'ai plus de questions si tu me voles mes questions.
Ok, ok. Donc je me
petite pause.
Oui, on va passer la deuxième chanson que nous a proposée Abir. Si cette fois elle est bien calée. Alors peut-être que ça va être du Atari Teenage Riot qui va sortir. À voir. Toujours sur Radio Canu, on continue avec l'interview de Habir.
Et une question immédiate, en fait, tu parlais de deux périodes, 56, 80, 80, plus. Et en fait, je me disais, mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé dans les années 80 pour qu'il y ait une libéralisation des structures éditoriales dans un pays qui reste, malgré tout, dans la volonté de contrôler les formes de publication?
Oui, effectivement. Donc, c'est ce qui s'est passé, c'est tout simplement que le début des années 1980, avec la crise de la dette des pays du tiers-monde et l'arrivée en force de nouveaux acteurs internationaux dans les affaires politiques internes des pays du Sud, que sont donc la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, c'est que ça a été tout simplement l'une des conditions, enfin, donc ce qu'on appelle les conditionnalités des prêts, que de libéraliser les marchés et pas en particulier, mais dont le marché éditorial. Ça s'est produit en Tunisie, ça s'est produit aussi dans les autres pays arabes, en Égypte, en Algérie, au Maroc, etc. Donc ça n'a pas du tout été particulier à la Tunisie. Donc le marché éditorial a été relativement libéré, sauf que l'État a continué à avoir le monopole de l'édition scolaire. Ça a été une des revendications d'ailleurs des éditeurs et de certains écrivains tunisiens que de lever le monopole de l'État sur l'édition scolaire. Pourquoi ? Parce que c'est le plus gros marché éditorial en Tunisie, comme dans les autres pays dits émergents ou en voie de développement, et que dans la mesure où les éditeurs privés sont privés en quelque sorte de l'édition scolaire, ils n'ont pas la possibilité de répercuter les gains éventuels de l'édition scolaire sur l'édition littéraire, qui est beaucoup plus risquée. C'est un petit peu cela qui s'est produit. Ta question me permet également de préciser quelque chose que je n'ai pas eu l'occasion de dire et que je devrais préciser, c'est que les écrivains tunisiens de littérature, tout comme je pense d'ailleurs peut-être au Maroc ou en Algérie, finalement ont bénéficié d'une relative liberté de publication et d'écriture. Bon, ça paraît relativement paradoxal de le dire, hein, mais c'est-à-dire que quand j'ai commencé à lire un certain nombre d'ouvrages au début de ma thèse, j'ai été assez surprise parfois par le caractère potentiellement extrêmement subversif de certains textes, et je me demandais comment ils ont pu être publiés. La réponse, elle est relativement simple, je pense, c'est que dans la mesure où il s'agit d'une littérature qui est très peu lue, très peu éditée, elle ne constituait pas en tout cas une réelle menace pour le régime, et c'est la raison pour laquelle donc il y avait au final peut-être un consensus implicite entre les élites politiques d'une part et certaines élites intellectuelles d'autre part, les élites intellectuelles bénéficiaient d'une relative autonomie dans l'exercice de leurs activités créatives, en échange, l'État pouvait s'assurer que ces élites intellectuelles ne basculent pas dans l'opposition contestataire proprement dite.
Ça me fait rebondir sur une question. Pourquoi il y a si peu de lecteurs ? Tu disais que finalement c'est assez peu lu. Alors évidemment, contrôler l'espace littéraire, la production littéraire scolaire, c'est aussi contrôler l'éducation aux formes de littérature, donc au contenu aussi. Donc du coup, en face, il y a peu de lecteurs potentiels. Alors est-ce que ce serait ça ? Parce qu'on se dit, mais du coup, pourquoi ? En fait, il n'y a pas de raison comme ça, a priori.
En tout cas, il n'y a pas. En fait, ce que je devrais peut-être préciser, c'est qu'il n'y a pas de. On ne peut pas dire qu'il y a peu de lecteurs de façon générale. Il y a peu de lecteurs de littérature tunisienne. C'est-à-dire que les lecteurs lisent autre chose que de la littérature tunisienne. Ils lisent les journaux, ils lisent la littérature française, ils lisent la littérature du Proche-Orient, mais peu la littérature tunisienne récemment produite.
Elle n'a pas de légitimité, elle n'a pas de reconnaissance.
En fait, c'est un petit peu un point qu'on a abordé un petit peu en début d'émission, c'est-à-dire que la légitimité institutionnelle de cette littérature n'existe pas. Elle est peut-être en voie de construction, mais elle est loin d'être évidente aujourd'hui.
Et avant la pause, tu nous parlais d'une ligue des écrivains libres. Donc ça, c'est peut-être, j'imagine, une des formes de résistance à cette censure dont tu parlais également avant l'interruption musicale. Et donc, c'est quoi alors cette ligue? Quel est leur objectif, en fait, par rapport à cette édition institutionnalisée?
Donc, la Ligue des écrivains libres, hein, donc Rabitat al-Kotab al-Ahrar, donc c'est une association qui donc la revendication de création de cette association date d'environ 2001 sous l'impulsion de 6 écrivains dont certains étaient des littéraires, d'autres des philosophes, qui étaient surtout très engagés dans l'opposition de gauche en tant que militants. Donc c'était des écrivains extrêmement politisés qui avaient signé des pétitions à plusieurs reprises pour les libertés d'expression pour les prisonniers politiques notamment, qui étaient des syndicalistes donc extrêmement engagés sur le terrain pour certains d'entre eux. Ce qu'ils revendiquaient, c'était la levée de la censure administrative, c'est-à-dire la fin du dépôt légal, non pas la fin du dépôt légal proprement dit, mais en tout cas la suppression du récépissé de dépôt légal le remplacement de la censure administrative par une censure judiciaire. Ça peut paraître assez paradoxal donc, pour des écrivains qui revendiquent la liberté d'expression que de exiger la substitution d'une autre forme de censure à celle qui existait. Mais ce sont des écrivains qui avaient un petit peu pour modèle ce qui existe en Égypte et en France, hein, c'est-à-dire l'absence de contrôle de la production en amont et le remplacement de la substitution à la censure administrative par l'institution judiciaire, c'est-à-dire que c'est à l'institution judiciaire de décider, en tout cas c'était leur revendication, de statuer sur le contenu, par exemple diffamatoire ou pas d'un texte à l'égard de telle ou telle personne. Parce que c'était certainement également pour eux une façon de rendre la censure, de constituer la censure en débat public. C'est-à-dire que jusque-là, la censure était complètement invisibilisée à travers ces procédures un petit peu bureaucratiques diffuses. Ce que souhaitaient les écrivains libres, c'est qu'il y ait un débat un petit peu public sur la censure, sur la légitimité ou pas des institutions étatiques à intervenir dans la production et sur les rapports de pouvoir à instituer entre le pouvoir politique, l'institution judiciaire et les intellectuels d'autre part.
Et est-ce que leur objectif c'était de court-circuiter aussi les routes éditoriales classiques? Est-ce que ça a été aussi leur objectif de proposer d'autres types de publications, je ne sais pas, d'auto-publications ou est-ce que ça fait partie de ces objectifs, oui?
Leurs objectifs n'étaient pas tant de remplacer les formes de publication qui existaient par d'autres. Ils se sont un petit peu accommodés de leur situation, on va dire, hein, parce que dans la mesure où ils étaient exclus des circuits de diffusion institutionnels, mais aussi parce qu'ils n'arrivaient, ils étaient interdits de fait de publier, donc même les éditeurs privés ne pouvaient pas les publier parce qu'eux-mêmes encouraient un certain nombre de risques. Ils ont diffusé cette littérature sous forme de polycopiés, lors de conférences organisées principalement dans les grandes villes à Tunis, Bizerte, Monastir, Sousse, etc., au siège des principaux partis d'opposition et des principales organisations autonomes de la société civile.
Donc j'imagine que c'était un moyen pour eux d'exprimer ce qui était censuré. Tu parlais tout à l'heure de la trilogie de l'interdit, donc j'imagine dans ces ouvrages on va retrouver des contextes sociaux, je ne sais pas comment on dit, je regarde les sociologues. J'imagine, là, il s'exprime, c'est bien le cas, oui.
Oui, alors, la trilogie de l'interdit, donc effectivement, ça a été... c'est quelque chose qui, à partir du moment où elle était abordée dans un texte, hein, non pas en tant que trilogie, mais il suffisait que l'un des trois éléments était abordé, le texte pouvait encourir le risque d'être censurés. En fait, bon, les écrivains de la Ligue des écrivains libres étaient censurés surtout en raison de leur engagement politique dans les partis d'opposition et pas principalement en raison de ce qu'ils publiaient. En revanche, il y a d'autres écrivains qui, tout en n'étant absolument pas du tout engagés ni dans la sphère associative ni dans la sphère partisane, revendiquaient une écriture de type transgressive. Pour eux, il s'agissait en quelque sorte de faire de la politique à travers donc leurs écrits en investissant la trilogie de l'interdit à l'intérieur même de leurs œuvres. Ce sont des écrivains qui sont plutôt originaires des classes populaires, qui sont par ailleurs plutôt des transfuges du gauchisme, donc plutôt étudiants. Donc, qui ont été engagés dans le principal syndicat étudiant tunisien dans les années 70 et 80, qui était l'UGET, l'Union Générale des Étudiants de Tunisie, et qui ont cessé de militer, mais qui ont reconverti un petit peu, bon, pour utiliser le jargon sociologique, reconverti des dispositions militantes dans la littérature, c'est-à-dire qu'ils ont quitté la sphère contestataire partisane, mais ils ont continué à faire de la politique à l'intérieur de leurs écrits. Voilà, donc là c'est la deuxième forme de résistance que j'ai pu identifier.
Et alors, est-ce que c'était, je pense que cette ligue existe toujours, oui, donc on peut parler au présent, est-ce que c'est justement l'occasion pour les écrivaines en fait d'exprimer en fait des choses qu'elles ne peuvent pas dire, bien sûr en très peu de temps, parce que comme tu le vois il reste en gros 7 minutes non, c'est sans vouloir rentrer dans le détail, mais alors des questions simples, c'est est-ce que par exemple des écrivaines font partie de cette ligue et est-ce qu'elles arrivent à s'exprimer?
Bon, alors, cette ligue est entièrement masculine. pour des raisons qui sont... j'ai pu identifier un certain nombre d'hypothèses. C'est que, d'une part, les partis d'opposition gauchiste sont plutôt investis par des hommes, à l'exception du syndicat étudiant, où là, les étudiantes sont également relativement bien engagées. Mais bon, de façon très classique, à partir le cycle de vie la division sexuelle du travail peut expliquer que les femmes soient exclues à un moment donné ou à un autre des structures partisanes, parce qu'elles sont par ailleurs chargées de l'éducation des enfants et du travail domestique, etc., qu'elles n'ont pas le temps de militer. Donc c'est une ligue qui est entièrement masculine. Pour une autre raison également, c'est que la question de la censure étatique n'est pas la principale préoccupation, à mon avis, pour les écrivaines qui doivent faire face à une autre forme de censure extrêmement disséminée et diffuse dans la sphère privée, c'est-à-dire que ce qui les préoccupe, ce qui, encore aujourd'hui, ce n'est pas uniquement ce que des agents du ministère de l'Intérieur vont penser de ce qu'elles écrivent, qui vont éventuellement prendre la décision de censurer leurs ouvrages, mais c'est aussi ce que leur entourage familial peut penser de ce qu'elles écrivent, d'autant plus que les critiques littéraires ont tendance à interpréter leurs œuvres comme des biographies déguisées. Et ça, c'est un phénomène relativement universel, malheureusement, que les critiques littéraires ont tendance à interpréter les œuvres écrites par des femmes comme des autobiographies, non pas comme des œuvres de création. C'est un phénomène qu'on connaît très très bien en France également, que les critiques littéraires vont chercher à chaque fois, lorsqu'il s'agit d'une femme qui est l'auteur d'un roman, de savoir si elle n'aurait pas par hasard vécu telle ou telle aventure amoureuse et sexuelle, etc. Donc voilà, donc il cherche à savoir, à identifier l'auteur réel derrière des narratrices ou des narrateurs qui sont complètement des œuvres de fiction. Je crois que j'ai un petit peu
Oui. Non, c'est vrai que là, on va pas pouvoir aborder ce thème qui serait très très long. Et on va peut-être finir par une ou deux questions. On va pas faire de pause musicale. Je pense qu'on va finir comme ça. En fait, c'est vrai qu'on voulait aussi aborder la révolution, bien évidemment, parce que c'est les choses qui ont été importantes dans la Tunisie des dernières années. Alors, je sais pas si un parallèle peut être fait en fait avec cette ligue des écrivains libres. Est-ce que ils y ont participé? Est-ce qu'ils ont été moteurs? Est-ce qu'ils ont été une source d'inspiration politique, ou alors pas du tout? D'ailleurs, est-ce que cette ligue, elle a une audience En fait, c'est peut-être une des premières questions que j'aurais pu te poser.
En fait, à l'instar des autres élites intellectuelles, les écrivains libres n'ont pratiquement aucune audience auprès du grand public. Ils ont participé individuellement à la Révolution. Ils ont également signé des communiqués et des pétitions en tant que collectif. Très rapidement d'ailleurs, après le début de la répression en décembre 2010 et même déjà avant, pendant les révoltes du bassin minier de Gafsa. La Révolution, ça n'a pas été une révolution d'élite ou d'intellectuel. Hein, c'est-à-dire que c'est un grand mouvement social qui est parti d'abord des couches populaires des régions de l'intérieur et du sud. Les classes moyennes de Tunis et des régions côtières qui sont relativement lettrées ont rejoint un petit peu le mouvement de contestation avec des convergences de revendications autour donc de la lutte contre la corruption et de la revendication de liberté publique, d'une part donc pour la petite bourgeoisie lettrée et pour les classes populaires, la redistribution des richesses non seulement entre les classes mais aussi entre les régions, parce qu'il y a de grosses disparités de développement entre Tunis et les régions côtières d'une part et les régions de l'intérieur et du sud. Donc voilà, à l'instar des autres intellectuels, en fait, leur action a été relativement marginale. Ils n'ont pas du tout d'audience au niveau du grand public. Lorsqu'ils font des conférences, il y a quelques dizaines de personnes, hein, un petit peu comme certaines conférences, un peu comme dans certains colloques. Voilà, c'est un petit peu ça.
Mais ils ont quand même participé à cette révolution. C'est des gens qui, j'imagine, ont été peut-être pas moteurs, mais ont manifesté.
Oui, tout à fait. Donc, non seulement les écrivains de la Ligue des écrivains libres ont participé à cette révolution, mais un certain nombre d'écrivains également qui n'en faisaient pas partie. La journée du 14 janvier 2011, par exemple, a rassemblé plusieurs centaines de milliers de personnes, voire des millions de personnes hein, dans les rues à Tunis et si on compte l'ensemble des personnes qui se sont mobilisées dans tout le pays. Et parmi eux, il y a aussi un certain nombre d'intellectuels qui l'ont fait à titre individuel.
D'accord. Et je te remercie beaucoup d'être venu ce soir, nous avoir raconté tout ça. Bon, c'est vrai qu'il aurait fallu peut-être 2 heures, 3 heures pour en parler, parler un peu plus des écrivaines, par exemple. Et je crois que tu voulais terminer par une annonce.
Alors, c'est moi qui vous remercie de m'avoir accordé la possibilité d'exposer ce que j'ai pu décrire. Dans votre émission. Je voudrais faire la publicité d'une auteure, non pas tunisienne, parce que je n'ai pas le droit, en tant que sociologue, de le faire. En tout cas, s'agissant de mon objet de recherche, je n'ai pas apporté de jugement de goût sur ce que je lis, sur ce sur quoi je travaille, mais je voudrais faire la publicité d'une écrivaine britannique qui s'appelle Janet Winterson, dont certaines et certains d'entre vous connaissent peut-être déjà, qui a publié un certain nombre d'ouvrages, de romans, plus ou moins autobiographiques, donc de mélange entre la fiction et la réalité. Il s'agit d'une écrivaine féministe, lesbienne, issue de la classe populaire ouvrière anglaise de Manchester, qui a publié « Les oranges ne sont pas le seul fruit », c'est la traduction d'un ouvrage en anglais, de son roman anglais « Oranges are not the only fruit », qu'elle a publié à l'âge de 25 ans. Et récemment, elle a un autre ouvrage qui a été traduit, qui s'appelle « Pourquoi être heureux quand on peut être normal ?» En fait, les deux titres de ces ouvrages sont issus un petit peu d'une phrase de sa mère adoptive, hein, parce que Janet Winterson était un enfant adopté. Qui, à partir du moment où sa mère adoptive découvre qu'elle a une relation amoureuse avec une fille, lui dit mais pourquoi tu es comme ça ? Elle lui dit mais parce que je suis heureuse comme ça. Et sa mère lui rétorque pourquoi être heureux quand on peut être normal ? C'est le titre de son deuxième ouvrage. Et le premier également est issu d'une phrase que sa mère adoptive répétait tout le temps, c'est-à-dire que les seuls fruits auxquels elle avait droit quand elle était gosse, c'était les oranges. Et quand elle lui disait mais pourquoi tout le temps des oranges ? Elle lui disait parce que les oranges sont le seul fruit. Voilà, c'est un petit peu
le nom de cet auteur.
Elle s'appelle Janet Winterson, elle est née en 1959.
Voulais nous parler aussi d'une rencontre de militants tunisiens.
Oui, alors je voudrais faire la pub pour un événement organisé par le collectif Femmes en Révolution. Donc, c'est un collectif de diverses donc, associations féministes, dont Femmes Solidaires et le Planning Familial Rhône-Alpes, qui organise le 15 octobre à 19h30 à la Maison des Passages donc, une soirée où des militantes tunisiennes interviennent. La première, Zaki Adifaoui, qui est professeure d'histoire et poétesse, et la seconde, Laïla Khaldi Larbidi, qui est militante du bassin minier de Gafsa, donc qui viendront le 15 octobre à la Maison des Passages à 19h30.
Eh ben, merci pour toutes ces infos, et je pense qu'on peut laisser la place à la causerie, qui attend impatiemment.
Exactement, on va faire ça. Merci Abir d'être venu. On passe donc un dernier titre pour faire la transition avec la causerie. Cette fois, ça devrait bien être Atari Teenage Riot avec Revolution Action. Et du coup, là, ça sera encore mieux dans le thème avec l'annonce qui vient d'être faite. Et on se dit à la semaine prochaine sur Radio Canu pour l'émission Angle Mort.